botikala mama upena kimia tokomi lobi lozali koya ongongazomi na libolo lenge tokutanaki lelo mai osango kota lingala na lisungila mimi kindu onzela ya masini na Ntoni Tumba Mamba na Jacques Matande longo na Mireille Buka sapo ya koma ya bango na pesi bine botondi mingi na kulanda biso mpo kwa lelo mpo ya nini koboso na wabiso mosungi na kopesa maloba na wabiso Remi Chamala tokomi lobi lozali koya na bolingo bakolo Yesu yemei olele.
Okapi.
Bonsoir. Environ 300 rebelles ougandais de LRA, l'armée de résistance du Seigneur, se trouvent depuis une semaine aux abords du parc national de la Garamba, proche de la frontière soudanaise. Ils demandent l'asile politique au gouvernement congolais. Uganda proteste contre toute présence de ces rebelles dans le territoire de la RDC. L'armée de résistance du Seigneur combat pendant plus de 18 ans le régime de Kampala. Son objectif est de mettre en place un régime théocratique fondé sur les 10 commandements de la Bible. Ces rebelles ont été ces derniers temps harcelés par les troupes de Kampala présentes au Sud-Soudan. Ils ont franchi la frontière congolaise accompagnés de quelques civils. La MONUC et le commandant de la 9e région militaire, général Padiri, ont fait le déplacement pour rencontrer ces rebelles dimanche dernier. Quelle réponse la RDC a-t-elle donné aux attentes du gouvernement ougandais? La RDC dispose-t-elle de moyens nécessaires pour régler ce problème? Quelles sont les conséquences possibles d'une gestion maladroite du problème lié à la présence de ces rebelles? Dialogue entre Congolais reçoit ce soir au studio de Radio Capi Philippe Guyoya, analyste politique et professeur en relations internationales à l'université de Kinshasa. Robert Mbinga, vice-ministre congolais des Affaires étrangères. Nous aurons aussi dans cette émission Walter Mulondi qui nous fera le point de la tripartite qui a eu lieu à New York aux États-Unis sur la situation dans la région des Grands Lacs.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Présence en RDC de rebelles de LRA, quelle réponse la RDC a-t-elle donné aux attentes du gouvernement ougandais? Première partie de notre émission. Mais quelles sont les vraies attentes du gouvernement congolais? Nous recevons dans ce studio Georges Kamujova pour nous en faire le point. Bonsoir Georges.
Bonsoir Franklin. Lundi dernier, le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que son pays demanderait l'extradition immédiate de Joseph Kony, le leader de ce groupe. C'est un groupe criminel comme les Interahamwe et autres, a-t-il ajouté après avoir reçu deux diplomates américains. L'Ouganda souhaite également que ces rebelles soient conduits devant la Cour pénale internationale. Le ministre ougandais de l'Information, Saba Buturo, qui intervenait sur nos antennes la semaine dernière, a dit que son pays attendait la coopération nécessaire de la RDC pour trouver solution à ces problèmes. Nous n'allons pas les poursuivre sans la permission du gouvernement du président Kabila, a-t-il ajouté. Donc, pour les autorités ougandaises, la présence de ces rebelles en RDC est très préoccupante.
Merci beaucoup Georges. Monsieur le ministre Robert Mbinga, je rappelle, vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères. Vous venez là d'entendre les attentes du gouvernement congolais, du gouvernement ougandais, sont-elles légitimes pour le gouvernement congolais?
Bien, merci. D'abord, il ne faut pas que les attentes du gouvernement ougandais par rapport au gouvernement congolais s'effacent par le biais de la presse. Donc, ce n'est pas par des déclarations sur Radio Okapi que le gouvernement ougandais va saisir le gouvernement congolais. C'est par d'autres canaux, et notamment celui des affaires étrangères, c'est-à-dire par la voie diplomatique.
Ah, mais vous venez là d'entendre, en tout cas, la position donnée par le porte-parole militaire. On compare ces rebelles, comme effectivement les rebelles rwandais, présent en RDC, les FDLR.
Je laisse les Ougandais responsables et libres des comparaisons qu'ils font. À ma connaissance, il n'y a pas eu un génocide en Ouganda pour qu'on puisse dire que ces gens seraient comme les Interahamwe. Les Interahamwe, tout le monde en parle en termes de génocidaires. Maintenant, cela dit.
Ils ont commis des crimes graves, hein, monsieur
le ministre. Cela dit, mais les crimes graves ne
sont pas poursuivables même par la Cour pénale internationale. Il y a des
mandats d'arrêt. Attendez, ne faisons pas la confusion, n'est-ce pas? Crimes graves, crimes de guerre, il y en a partout, surtout au pays. Ce que font les Ougandais. vous n'êtes pas sans oublier qu'ils sont venus se battre avec les Rwandais, par exemple, pour détruire Kisangani. Donc les crimes graves, ben, ils les commettent aussi. L'armée du président Museveni en commet dans notre pays. Okay? Nous n'allons pas pour cela dire ils ont commis un génocide ou ils ont fait cela. Je dis simplement, je les laisse libres de leur comparaison. Notre problème n'est pas cela. Mais je voudrais quand même m'étonner d'abord du... Comment je peux dire de cette agitation ougandaise sur 300 personnes. Parce que c'est eux qui donnent les chiffres. 300 personnes. Cette armée qui les combat depuis 18 ans à des milliers de gens. Alors, c'est pour 300 personnes que Museveni se sent maintenant, non, je vais tomber parce que ces 300-là ont traversé la frontière de l'Ouganda. Ça veut dire d'ailleurs que c'est, l'armée ougandaise qui est là n'a pas réussi à les combattre et
ils ont quitté
les
Soudan, ils étaient au Soudan. Hein.
Mais justement, l'armée ougandaise est au Soudan. N'est-ce pas? Il n'a pas réussi et donc elle n'a pas réussi à pouvoir...
Effectivement,
mettre fin à cette rébellion.
Le problème, c'est que les taux sécuritaires sont de plus en plus sur eux, qu'ils fouillent maintenant. S'il n'y a pas une stratégie, ils vont venir
raison,
en abondance.
Pour quelle raison vous pouvez dire que les taux se resserrent sur eux? Puisqu'ils continuent de venir attaquer l'Ouganda. Pas seulement à partir de notre territoire, à partir de l'Ouganda et du Soudan également. Alors, pour quelle raison est-ce que vous pensez que le taux se resserre sur eux? Ce qui est certain, c'est que, et ça, je peux le dire, c'est que le gouvernement ougandais, lorsqu'il pose le problème dans les normes, le gouvernement congolais lui répond également dans les normes. Savez-vous par exemple que pour le Nalu et les ADF dans la province du Nord Kivu, le gouvernement ougandais a demandé que leur commission de démobilisation ait des délégués à Beni pour recenser ceux des gens qui se sont déclarés volontaires pour déposer les armes et rentrer en Ouganda. Eh bien, nous avons accepté, il y aura dans le bureau de la CONADER à Beni des délégués de Amnesty Ouganda, puisque c'est comme cela qu'ils appellent leur organisme, et ils vont travailler ensemble pour que ceux de Nalu et des ADF qui acceptent de déposer les armes et de rentrer en Ouganda avec l'assurance qu'ils ne seront pas poursuivis, eh bien, pour que ces gens se fassent.
Si on prend les cas concrets de rebelles et les restes, que la forme a été respectée par le gouvernement ougandais.
Mais je vous dis, je suis au ministère des Affaires étrangères, je n'ai pas reçu officiellement une demande du gouvernement ougandais. Ce que vous me dites, c'est ce qu'ils ont déclaré à travers les médias. Et ce n'est pas par cette voie-là qu'on saisit un gouvernement.
Professeur Biyoya, vous venez d'entendre en tout cas le point fait par notre confrère Georges Kamujova sur les attentes ougandaises. Vous venez d'entendre le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC. Quelle analyse vous faites de la situation ougando-congolaise?
Non, je crois que j'ai l'impression qu'en nous voulant assister encore au recommencement du monde, là, on a déjà entendu des choses comme ça là dans les années qui ont précédé en fait la détérioration de la situation des agressions et consorts. J'ai comme l'impression que quelque part c'est comme si le gouvernement ougandais était en train de vouloir créer un prétexte pour justifier en fait une action qui me semble déjà programmée, parce que on n'est pas censé ignorer la situation générale de notre sous-région, de la région qu'on peut appeler le Grand Lac, où il y a une géopolitique de déstabilisation qui s'entretient par ces va-et-vient de mouvements rebelles que certains instrumentalisent à un certain moment-là. Alors, je ne peux pas comprendre que la question qui se posait dans les relations du Soudan avec l'Ouganda redevienne maintenant une question congolo-ougandaise, alors que nous pensions qu'en fait, de ce côté-là, les choses s'étaient stabilisées depuis fort longtemps. Et quand bien même ces gens-là se seraient retrouvés sur notre territoire parce que fuyant les guerres ou les affrontements militaires avec l'armée ougandaise, on ne se serait pas entendu avec à ce ton, à l'allure que le gouvernement ougandais impose, en fait, veut imposer aux événements. Parce qu'on sait, on le dit, ils sont en train de se battre et que ces gens-là se sont repliés. Que même si ces gens demandaient, par exemple, l'asile chez nous, mais comme l'a dit le vice-ministre, le gouvernement ougandais n'a pas de raison d'utiliser les médias ou même d'utiliser les instances internationales pour condamner l'RDC directement.
Effectivement, mais là, il y a un problème de forme que peut-être vous pouvez reconnaître. Mais du point de vue fond, est-ce que leurs attentes qu'on puisse désarmer ce genre, rapatrier ceux qui doivent être rapatriés, traduire en justice ceux qui doivent être traduits en justice, du point de vue fond, est-ce que ces attentes sont légitimes?
Bon, le problème, moi je ne veux pas, quand vous cherchez la légitimité, c'est là où ça devient un tout petit peu problème, parce que légitimité, c'est par rapport à quoi? Il y a des procédures en droit international, parce que ces questions sont réglées par le droit. Quelle doit être la situation juridique sur le plan du droit international de ces gens-là qui, fuyant en fait leur pays, fuyant les hostilités, quel que soit leur statut, qui entrent sur un territoire parce qu'il y a un principe de souveraineté, le gouvernement ougandais, quelle que soit sa force, sa puissance, a le devoir de respecter d'abord la souveraineté du pays qui reçoit ces Ougandais-là. Et à partir du moment où, en fait, ces gens sont sur notre territoire, le gouvernement ougandais ne peut pas agir directement sur ces gens. Le gouvernement ougandais ne peut pas faire de sommation sur notre gouvernement pour l'obliger
mais
à l'autoriser.
Le gouvernement ougandais attend.
Mais le problème,
des
c'est
attentes.
Que... Oui, mais les attentes, ces attentes-là, c'est-à-dire qu'il faut d'abord traiter le problème. Ces gens arrivent, on doit soit les prendre, les confier à un organisme international qui les gère, pour le compte à la fois du gouvernement congolais, sous le sol duquel il se retrouve, et pour le compte du gouvernement ougandais. Mais on n'a pas à oublier ce principe du droit international qui existe pour commencer à agir comme si on était l'empereur et qu'on avait des injonctions à donner à une sous-entité qui l'on contrôlait quelque part. C'est un peu ce qui est dérangeant dans cette approche, la manière de poser le problème. Donc on ne doit pas chercher la légitimité. On sait qu'ils sont en situation de guerre. Museveni lui-même. Il est venu au pouvoir comment? Il était rebelle. Et il sait, en fait, parce que c'est ça la géopolitique de notre sous-région, parce que nous avons affaire à des régimes qui sont devenus ce qu'ils sont, notamment presque en passant par le même
mais truc. Mais le problème, c'est que LRA est maintenant classé parmi les groupes terroristes du monde. Donc, il y a
par
un
qui?
Problème.
Il y a
un
classé
problème
par
de l'opinion
internationale. Classé par qui? Par Museveni.
Pas par Museveni.
Mais par qui?
Pas par...
Y a-t-il eu une résolution des Nations Unies dans laquelle vous retrouvez ces groupes comme étant
en tout cas, les États-Unis, pour les États-Unis, c'est clair. LRA et LDLR sont des groupes terroristes.
Nous sommes là pour donner des informations. Alors, arrêtons de pouvoir dire c'est long, ceci. Non. Pour être déclaré terroriste, il faut poser des actes de terrorisme. Et il faut qu'il y ait des choses. On a essayé de faire la même chose avec les Burundais lorsqu'il y a eu le massacre de Gatumba. Les choses ne doivent pas se faire comme ça. Ce n'est pas pour faire plaisir à Museveni que, allez, on va les déclarer ceci pour qu'on puisse faire jouer tel mécanisme. Non, ce n'est pas comme cela. Si on veut respecter les droits internationaux, bien qu'on respecte les droits internationaux dans toutes ces dimensions. Alors, un, ce n'est pas des injonctions. Deux, il faut saisir le gouvernement congolais par les formes. Et trois, il faut laisser au gouvernement congolais le temps de répondre.
Premier contact hier dimanche dans la cité de Aba, dans la province orientale, entre le général Padiri, commandant de la 9e région militaire, et les rebelles ougandais de l'armée de libération du Seigneur. Ils sont campés pour le moment dans la localité de Namour, située pratiquement à 9 km de la cité de Aba, où le général Padiri les a rencontrés. Je vous propose de suivre l'entretien que Claude Kanza a eu avec Georges Kamoudjoura. Claude Kanza a été présent à Aba dimanche dernier. Il a couvert pour Radio Okapi ce premier contact entre le général Padiri et les rebelles et l'ERA.
Claude Kanza, vous avez accompagné hier dans la cité de Aba, dans les territoires de Faradje, les générales Padiri, qui avaient été mandatés par la hiérarchie militaire pour négocier avec les rebelles ougandais de LRA. Comment cette population vit-elle la présence sur son territoire de ce groupe armé étranger?
Il reste que la population est très inquiète de la présence des miliciens ougandais. Cette contrée, comme beaucoup d'autres contrées de la RDC d'ailleurs, a connu les affres de la guerre. On peut le remarquer encore par la présence des anciens militaires du MLC qui se trouvent encore à Aba. Il y a eu aussi l'incident sur ces territoires de la guerre qui se déroulait au Soudan entre la SPLA de John Garang et l'ancien régime qui dirigeait le Soudan. Il y a donc, Thérèse, au sein de la population du territoire de Farage, la crainte d'une réplique de ce qui se passe actuellement dans le nord et le sud Kivu avec les exactions que commettent les groupes armés rwandais sur les populations congolaises. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi parmi cette population la crainte des attaques des troupes soudanaises contre les rebelles ougandais en plein territoire congolais.
La population du territoire de Faradje a-t-elle manifesté ses inquiétudes aux autorités politico-administratives?
Bien sûr. Elle a d'ailleurs fait vendredi dernier dans la cité de Aba en organisant une marche pacifique de protestation contre la présence des combattants de l'armée de résistance du Seigneur sur son territoire. Elle en a aussi profité pour remettre un limo adressé aux autorités politiques congolaises, comme nous l'a aussi affirmé hier à Aba, l'administrateur de territoire adjoint de Faragé, M. Jean-Pierre Yangoyete.
La population de Aba avait manifesté vivement, et elle ne veut plus de la guerre, elle ne veut plus, elle ne veut pas de la présence de ces hommes dans son territoire.
Pourquoi ?
La guerre a décimé des gens ici, la guerre a fait du mal dans ces territoires. C'est ainsi que la population ne veut plus de la guerre dans son territoire.
Est-ce que la population de Aba seulement avait manifesté ou bien de Mamour aussi ?
La population de Aba et des environs, c'est-à-dire les collectivités environnantes, y compris la localité de Mamour.
Et qu'en est-il, Claude, de la présence de l'armée congolaise dans la localité de Mamour, où se trouvent actuellement ces miliciens ougandais ?
Il n'y a pas grand monde pour l'instant, car selon le général Padiri, commandant de la 9e région militaire, cela s'explique par le fait que les militaires qui s'y trouvaient ont été déplacés vers des centres de brassage. Mais il a aussi affirmé que des dispositions seront prises pour sécuriser la population au cas où elle serait en danger. Pour cela, il a dit compter aussi sur un soutien de la MONUC.
Hier, le gouvernement congolais a délégué le général Padiri, commandant de la 9e région militaire, pour négocier avec les rebelles de LRA. Qu'est-ce qu'ils ont-ils dit, Claude ?
Thérèse Kankou, il n'y avait qu'un seul message de la part du général Padiri aux rebelles. Ils doivent déposer les armes car la RDC n'est pas disposée à accueillir sur son territoire un quelconque groupe armé étranger. Pour leur part, les rebelles ont affirmé qu'avant tout désarmement, ils allaient d'abord se référer à leur hiérarchie.
Merci beaucoup Claude Kianza pour toutes ces informations et bonne soirée à Bounia dans la province orientale.
Merci beaucoup Thérèse Kankou et bonne soirée à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Vous avez sans doute compris, ce n'était pas Georges Kamoujova, mais plutôt Thérèse Kankou qui a eu ce soir l'entretien avec notre confrère Claude Kianza qui se trouve pour l'instant à Bounia et qui a couvert pour Radio Okapi la rencontre d'hier entre le commandant de la 9e région militaire et les rebelles ougandais présents actuellement à Aba et à Mamour. Monsieur le ministre, vous venez là d'entendre même les attentes de la population sur place à Mamour, à Aba, dans tout le territoire. On ne veut pas de ces rebelles LRA, il faut qu'ils partent.
Ben, ça, c'est d'abord notre première mission, c'est celle-là, c'est de pouvoir sécuriser notre population. Ce n'est pas de faire plaisir à qui que ce soit, qu'il soit président ougandais ou pas. Notre première mission, c'est celle-là, sécuriser la population, éviter à la population de revivre les affres de la guerre. Ça, c'est notre première mission. Et donc, ce qui nous interpelle le plus et auquel nous devons répondre, c'est bien ça, les préoccupations de la population. Pas question de pouvoir accepter la présence de ces gens sur notre territoire pour éviter, comme le professeur Bioya l'a dit, de donner de prétexte à ceux qui, en réalité, cherchent toujours comment justifier la présence de leurs hommes de main dans notre territoire, pour des mobiles que vous connaissez bien, qui sont en fait toujours les pillages de nos ressources. Voilà le vrai problème. Donc notre vraie préoccupation, c'est celle-là. C'est de faire partir ces gens pour qu'on ne mette pas en danger la population congolaise.
Professeur
Et Bioya, pas faire plaisir à qui que ce soit.
Professeur Bioya, vous pensez que la seule motivation d'une action possible du gouvernement congolais pourrait être seulement répondre aux attentes des Congolais, mais pas aux attentes de Rwandais, de Ougandais, voisins proches.
On s'est dit qu'il faut poser un problème général d'approche. Nous avons là un problème qui menace notre intégrité territoriale. C'est que nous avons des frontières que depuis longtemps nous ne savons plus en fait protéger et qui deviennent trop perméables. Et ça nous pose un problème fondamental. C'est que je pense, et heureusement que le ministre est là, je crois que nous avons un devoir en fait d'administration à répondre à ces besoins. La meilleure façon de sécuriser la population, c'est pas d'envoyer des troupes, comme on l'a dit, qui n'a pas un nombre suffisant, mais c'est en fait d'engager une diplomatie de bon voisinage avec justement ce gouvernement-là. Il faudrait que nous transformions en fait la méfiance et l'affrontement qui paraît diffus entre l'Ouganda et nous en coopération et en coopération véritable. Et là aussi, autant que je m'adresse au gouvernement congolais, je devais m'adresser aussi au gouvernement ougandais, parce que le gouvernement ougandais savait qu'en entreprenant de combattre militairement ces gens,
le problème, c'est que l'Ouganda se retrouve dans une position de force par rapport à la RDC. Et donc, maintenant, c'est à la RDC
la diplomatie...
utiliser la circonstance.
Non.
Militairement, par exemple.
La diplomatie ne regarde pas à la stature des États. La diplomatie, c'est en fait une relation que l'on construit. Et cette relation, c'est sur base des intérêts mutuellement avantageux pour parler de réciprocité. Je pense que l'Ouganda a intérêt de travailler ensemble avec la RDC en temps normal comme en temps difficile pour trouver des solutions aux problèmes qui, en fait, engagent le destin des deux nations.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Nous allons commencer par les opinions de nos auditeurs. De Maradi, dans la province orientale en Ituri, Oupio pense qu'il appartient au gouvernement de trouver une solution efficace pour ôter la LRA, tout alibi. L'est du pays a assez souffert de guerre. De Mongolou, dans la province orientale, toujours en Ituri, Elia Siwatula. Je rejette l'asile demandé par ces rebelles ougandais. Nous ne voulons pas qu'ils nous emmènent la guerre ici. Pourquoi l'Ouganda ne négocierait-il pas la paix avec ces rebelles à l'exemple de la RDC? Théo Kiloué de Bukavu au sud Kivu pense que les rebelles doivent être désarmés avant une quelconque demande d'asile, sinon on commettrait la même erreur que Mobutu avait commise avec les ex-FAR et les Interahamwe en 1994. Cédric Mambola à Butembo, au Nord Kivu, pense que le gouvernement congolais doit d'abord agir militairement avant une quelconque négociation. Patrice Ngamboul, étudiant à l'INULO au Katanga, son opinion. La question ici est de savoir comment faire le tri entre ces rebelles, car l'annexe à l'accord de Lusaka, chapitre 9, 9.1 et 9.2, laisse au gouvernement la latitude d'accorder asile aux rebelles. Et Zati Ezaï, Arou, dans la province orientale, pense « Pas d'asile politique pour ces rebelles. Les autorités congolaises doivent se souvenir de l'expérience malheureuse vécue avec les Interahamwe et les ex-FAR. » Nyamilima Aruchuru, Nyamilima c'est le nom de l'auditeur, parce que Nyamilima aussi c'est le nom d'une localité, ici c'est un auditeur, il pense « Ces rebelles armés vont plus tard retourner leurs armes contre la population civile. » Nepo, dans la province de Sud Kivu à Bukavu, pense « L'armée congolaise est incapable de chasser ces rebelles de la RDC. » En tout cas, là on a vu les opinions des auditeurs et surtout ceux de l'Est le plus concernés. Ils disent qu'effectivement, pour la plupart, il faudrait que le gouvernement use de sa force pour chasser ces rebelles présents. Monsieur le vice-ministre, je rappelle votre nom, Robert Mvunga, vous êtes des affaires étrangères.
Mais d'abord, il faut dire, ils ont demandé asile auprès de quelles autorités? Parce que c'est des choses qu'on raconte. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, n'a pas reçu demande de qui que ce soit pour un asile. Donc, encore une fois, il faut faire très attention.
Non, en fait, les attentes de la
voilà
population
groupe,
utiliser la
force. Attendez. Voilà un groupe rebelle qui se bat contre qui fait la guerre au régime du président Museveni. Le président Museveni envoie ses troupes au Sud-Soudan, est incapable de vaincre ces gens. Ces gens fuient, si on peut parler comme ça, et trouvent refuge dans notre territoire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont venus chercher asile politique chez nous. On ne peut pas accorder un asile politique à quelqu'un qui est en armes. Encore une
Alors,
fois,
qu'est-ce qu'il faut faire justement?
Le gouvernement n'a pas reçu de demande d'asile politique de qui que ce soit.
Exactement.
Il faut parler de la présence non acceptée et non tolérée des troupes de rebelles ougandais, 300 selon leur propre dire, qui sont chez nous à la suite des combats entre l'armée ougandaise et ces troupes-là.
Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais compte faire concrètement pour que ces gens-là qui se trouvent dans des situations irrégulières en RDC puissent quitter le territoire national?
Ben, le général Padjiri, vous avez donné le reportage. Il est allé là-bas pour leur dire quoi? Vous restez tranquille chez nous?
Premièrement, vous devez être désarmé.
Mais ils ont, vous avez entendu leur réponse, la réponse de rebelles. Nous ne désarmons pas et nous attendons la réponse de notre hiérarchie.
Eh bien, ils repartiront. Alors, ils repartiront d'où ils sont venus.
Comment, justement?
Le général l'a dit. Encore une fois, notre armée, je l'ai dit, nous sommes en plein processus de formation de l'armée.
Alors, est-ce qu'on aura le moyen pour utiliser la force des uns?
Mais absolument. Puisque nous avons le même cas, notamment avec ceux de l'Est. Nous disons, si vous n'êtes pas d'accord avec un désarmement volontaire, les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUC et l'appui des troupes africaines, on vous fout dehors.
Mais il y a un problème, c'est que là, pour le moment, il n'y a pratiquement pas la présence de notre armée.
Mais il n'est pas possible, monsieur. Nous avons 2 345 000 km² de superficie. Vous pensez qu'on peut mettre un militaire à chaque mètre?
Donc il faudrait maintenant un
déplacement. La stratégie militaire est différente. On peut avoir comme stratégie non pas de ceinturer la frontière, parce que ce n'est pas possible. Il faudrait une armée des millions. Et nous n'avons pas les moyens d'avoir une armée des millions. Donc c'est une autre stratégie militaire qui doit être mise en place pour défendre le territoire.
Professeur,
mais ce n'est pas la présence des gens qui seraient là chaque jour, des milliers, debout, en train de regarder quelle mouche va passer par la frontière. C'est pas réel.
Professeur Biyoya, rapidement, pour pensez-vous que le gouvernement congolais aura des moyens nécessaires pour répondre aux attentes et de la population et de gouvernement voisin, l'Ouganda?
C'est-à-dire, il ne faut pas séparer d'abord ces attentes à la population des attentes de voisins, parce que la sécurité, je crois, elle est unique et indivisible. Et nous avons besoin de la sécurité dans cette partie du monde. Je crois que le gouvernement congolais, c'est un gouvernement qui fonctionne, qui non seulement a des forces, mais a signé aussi des accords, nous semble-t-il, de défense avec certains pays. J'ai toujours pensé personnellement que notre gouvernement n'arrivait pas en fait à utiliser ces accords de défense. Les accords de défense, il ne faut pas continuer à penser les utiliser comme ce fut le cas en Afrique dans le contexte des conflits à l'intérieur des nations. Les accords de défense, c'est justement le partage des responsabilités en matière de sécurité extérieure. Donc, je pense que nous avons des accords de défense avec la Belgique, avec l'Angola, je ne sais pas quel autre pays. Et dans la mesure où nous n'avons pas encore une armée qui soit en fait assez consolidée, nous aurions dû, et les affaires étrangères sont là pour ça, travailler avec le ministère de la Défense, à voir comment ces pays avec lesquels sont en accord de défense, c'est un accord de défense, c'est un accord d'intégration. C'est-à-dire nous sommes ensemble dans la défense de notre territoire, on aurait dû les mettre à contribution pour la sécurisation de la frontière orientale. Parce que moi je pense qu'on peut tout dire, vous pouvez tout chercher, les voisins, nos voisins, nous ont piégés et ils nous piègent toujours. Et ils savent qu'ils peuvent, nous pouvons commettre des erreurs dans ces situations qui nous provoquent. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Museveni lui-même, avec son armée, qui provoque cette situation et qui voudrait en fait mettre la RDC en situation de choisir entre montrer que c'est un gouvernement qui doit renoncer à la responsabilité ou un gouvernement qui doit être responsable. Alors, il sait que lorsque nous choisissons d'être responsables, lui, il va penser que nous
professeur, donc si je vous résume bien, pour vous, le seul moyen à utiliser, c'est utiliser aussi les accords de défense que la RDC a.
Il y a les accords de défense qu'on doit utiliser avec les pays qui sont en accord de défense avec nous, et il y a aussi, en fait, les contacts diplomatiques. Il faut absolument chercher, en fait, à travailler ensemble avec le gouvernement ougandais, comme le gouvernement rwandais, pour cette question, pour que notre sécurité soit la sécurité commune à tout le monde.
Présence en RDC de rebelles de LRA. Quelles sont les conséquences possibles d'une gestion maladroite du problème lié à la présence de ces rebelles? C'est la dernière partie de notre émission et on se retrouve dans un instant pour les détails.
quelles sont les conséquences possibles d'une gestion maladroite de problèmes liés à la présence de ces rebelles? La dernière partie de notre émission qui reçoit dans son studio Philippe Bioya, professeur en relations internationales et expert analyste politique. Robert Mbunga, vice-ministre des Affaires étrangères congolais. On va maintenant écouter ce que pense le gouvernement ougandais si la RDC n'arrive pas à chasser dans son territoire national les rebelles présents actuellement de LRA. Nous allons écouter le porte-parole de l'armée ougandaise, Shabani Bantariza, qui a été joint ce soir par notre confrère Georges Kamujura.
Nous espérons en une coopération entre notre armée et le gouvernement congolais pour arriver à anéantir cette rébellion de la LRA. Le but ultime est que ce groupe ne soit un danger ni pour les populations congolaises, ni pour le peuple ougandais. Que feriez-vous si ces rebelles refusaient de se faire désarmer ou si l'armée congolaise et le gouvernement congolais n'arrivaient pas à les désarmer? Nous souhaitons que le gouvernement congolais, avec l'aide de la MONUC, arrive à les désarmer. Ils seront alors mis à la disposition de la Cour pénale internationale et d'autres seront amenés en Ouganda où certains pourront bénéficier des mesures d'amnistie. Mais est-ce que vous pourrez intervenir militairement au cas où la RDC n'arrivait pas à les désarmer? Nous n'envisageons pas d'action unilatérale en RDC. Il est nécessaire que nous ayons l'aval de Kinshasa. Si l'armée congolaise n'arrive pas seule à désarmer ses rebelles, elle sollicitera l'aide de la MONUC. C'est le gouvernement congolais qui pourra aussi appeler d'autres Africains à l'aider, soit l'Ouganda, le Zimbabwe ou tout autre pays. Ça ne dépend que des autorités congolaises et pas de nous.
Monsieur le vice-ministre, est-ce que vous êtes disposé probablement à inviter par exemple l'Ouganda au cas où le gouvernement congolais n'arrivait pas à désarmer de force ou à rapatrier de force ses rebelles LRA?
Écoutez, j'ai de la peine à comprendre que je suis devant une radio au Congo avec ces pessimismes-là. Non, monsieur, je vous le dis, laissez le gouvernement gérer cette question au mieux des intérêts de notre population. Je voudrais commencer par dire, ce n'est pas des rebelles congolais qui sont en Ouganda. Vous avez déjà appris ça? Ce n'est pas des rebelles congolais qui sont au Rwanda. L'insécurité dans cette région, elle est le fait de troupes et de rebelles d'autres pays, pas des Congolais. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut quand même pas changer la façon de voir les choses. C'est une responsabilité d'abord du gouvernement ougandais. C'est à lui à pouvoir mettre fin, soit par les armes, ce qu'il a tenté depuis 18 ans et qu'il est incapable de faire. Alors c'est à lui à mettre fin à la rébellion par la négociation. Nous l'avons fait. Commençons d'abord par reprocher à ceux qui sont en fait le robinet qui fabrique les Interahamwe, qui fabrique les LRA et qui fabrique les Nalu. C'est d'abord ça. Permettez, je vais terminer. Deuxième chose maintenant. Nous avons, nous, demandé, comme pour ceux qui sont du côté de Beni, de pouvoir les désarmer volontairement et de les faire rentrer en Ouganda. C'est exactement la même chose que l'on demande aux 300 miliciens LRA qui sont venus chez nous depuis des jours. J'ai même... Si vous ne voyez pas qu'il s'agit véritablement simplement d'un prétexte, ça fait deux jours, et l'Ouganda crie « Ah non, ça va marcher ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est 18 ans qu'ils les combattent, ils n'arrivent pas à mettre un terme à l'existence de l'armée du Seigneur. Deux jours chez nous pour 300 personnes, alors qu'il y a par exemple plus de 1000 qu'ils reconnaissent à l'Est. Ils ne font pas autant de craintes et d'inquiétudes que ces 300 personnes-là. Ça cache quoi tout cela? C'est cela que vous devez être en mesure de pouvoir expliquer à la population. C'est un petit, et c'est un prétexte qu'on cherche. On a beau dire, appeler X, appeler Y, l'idée est derrière la tête. Il faut entrer au Congo, continuer de piller et chaque fois créer des prétextes.
On va aller maintenant aux États-Unis. Je vous le disais, nous aurons dans cette émission Walter Mulundi Bayerindi, qui est journaliste de Radio Okapi, mais en détachement maintenant à la radio de New York. Walter a couvert la tripartite qui s'est tenue en marge du sommet des Nations Unies, tripartite qui a réuni la RDC, l'Ouganda, le Rwanda et aussi le Burundi. Sans doute le problème de la région a été soulevé, Walter. En rapport avec l'Ouganda, quel a été le problème posé par l'Ouganda et la conclusion auquel la tripartite en est arrivée?
Bonsoir Franklin, il faut reconnaître que, ajouter si vous voulez au nombre de participants à cette tripartite, les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté Sanjidio et évidemment des Nations Unies. Sur la question des milices et autres groupes armés qui sont actifs à l'est de la République démocratique du Congo, après une interview que nous a accordée Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Raymond Ramazani Baya, il a dit clairement que tous les groupes armés doivent être, si vous voulez, subir le même schéma appliqué au FDLR, c'est-à-dire d'abord un désarmement et puis un rapatriement volontaire au départ. Et si cela ne réussit pas, eh bien, il va falloir utiliser la force. C'est valable pour tous les groupes armés et selon le ministre, tous les États concernés doivent collaborer pour sécuriser la région des Grands Lacs. Voilà, de façon brève, la réponse qu'a donnée le ministre, mais il s'est étendu sur l'ultimatum qu'on attend de FDLR, dont le délai va expirer d'ici le 30 septembre, Franklin Moliba Sese.
Et vous avez dit que les États-Unis étaient aussi sur place dans cette tripartite, et nous savons que c'est les États-Unis qui jouent la médiation à cette tripartite. Quelle est au fait la position même des États-Unis en rapport surtout avec les rebelles ougandais?
Il faut reconnaître que la question des groupes armés qui sèment la terreur dans la région des Grands Lacs est considérée comme une source d'insécurité générale et qui a des impacts négatifs sur l'ensemble de la région. Il faut dire que le mot, si vous voulez, groupe terroristes et tout ne pouvaient pas vite sortir de lèvres, dès lors que pendant même le sommet mondial et le débat général au niveau de l'Assemblée générale, la 60e de l'Organisation des Nations Unies, les États ne sont pas arrivés à s'accorder sur la définition du terme terroriste et quel groupe devrait l'être. Au demeurant, la présence des groupes armés, des milices illicites sur un territoire et qui sèment la mort dans un territoire voisin est considéré comme une présence nuisible et qui doit être, si vous voulez, noyautée, mis hors d'état de nuire par tous les moyens possibles.
Walter Mulundi, nous vous remercions très sincèrement de votre participation à ce dialogue entre Congolais et nous vous souhaitons bonne journée puisqu'il fait jour chez vous.
Mais oui, Franklin, peut-être un dernier mot pour rentrer dans le schéma même de cette question en une minute, si vous permettez.
Allez-y rapidement.
C'est-à-dire que par rapport à la présence de la Lord Resistance Army, le groupe LRA, son impact sur l'insécurité dans la région, c'est que ça aggrave aussi l'insécurité au Sud-Soudan, où, comme vous le savez, il y a cette grave crise au Darfour qui a affecté près de 2,5 millions de personnes au cours des trois dernières années. Et selon l'envoyé spécial de Kofi Annan dans le Soudan, qui s'appelle M. Pronk, il a dit que c'était une menace pour la paix au Soudan. C'est ce qu'a dit Jean Prank, qui a estimé que cette question devrait être réglée militairement et politiquement, et je cite, je vais finir par là, car, disait-il, si Joseph Kony, chef de LRA, donc de l'armée de résistance du Seigneur, se croit investi de la raison de pouvoir surnaturel, si ce monsieur venait à mourir, il serait vite remplacé. Jean Prank soulignait ainsi la nécessité de régler très rapidement cette question, non seulement militairement, mais aussi politiquement.
Walter Mulundi, merci beaucoup pour vos éclaircissements. On rentre au studio, Philippe Buyoya, vous venez en tout cas d'entendre en tout cas les résolutions au niveau de la tripartite. Il faut une collaboration, il faut une fermeté militaire, mais il faudra aussi garder de considération politique. Ce sont les conclusions à laquelle est parvenue la tripartite tenue en marge du sommet aux Nations Unies. Pensez-vous que c'est d'application dans les cas concrets et l'ERA?
Non, mais je crois que
Je l'ai demandé moi-même hein, tout à l'heure, là, quand vous avez demandé comment il fallait traiter cette question-là. Les résolutions, on les prend, c'est vrai, il faut les prendre, mais je crois qu'on n'approfondit pas la question de ces groupes qu'on appelle l'armée et les milices actifs, parce que j'ai comme l'impression que ce groupe bénéficie d'une certaine autonomie en beaucoup de choses, et que on leur a donné tellement de l'importance que lorsqu'il s'agit, en fait, de les traquer, au lieu de les traquer, il y en a qui recherchent à négocier avec eux, à le mettre dans ce compte. Alors moi, je voudrais simplement dire ceci, que à vous entendre, comment vous posez de questions au ministre, comment les Ougandais laissent les soldats gérer la question, alors que là, vous avez un ministre des Affaires étrangères, je prouve en fait un malaise. On aurait été à l'aise, on aurait compris que l'Ouganda veut la paix si l'Ouganda avait cherché à laisser gérer cette crise. S'il y a crise, d'abord par des voies politiques, des voies diplomatiques. Or, on n'entend pas les diplomates parler, on n'entend que des militaires. Nous sommes pratiquement, en fait, quelque part, il y a des gens qui sont en instance de guerre. Alors, c'est de notre côté, peut-être qu'il faudra que l'on se réveille pour savoir aussi que nous sommes en fait en instance d'être agressés. Il y a un pays qui a vraiment déjà conçu l'agression, qui veut la consommer. Mais je pense que la communauté internationale ne devrait pas se contenter de réunir des gens à Washington, un peu partout. La communauté internationale devrait dire exactement, concrètement, comment on peut mettre à contribution de moyens pour que ces gens-là, ces rebelles-là, ne soient pas considérés comme des réserves qu'on attend manipuler lorsqu'il y aura des crises dans toutes les régions.
Mais non, vous avez suivi Walter, il a parlé de présence nuisible qu'il faudrait à tout prix
l'Union européenne. J'en arrive là. Il ne faut pas parler de présence nuisible simplement parce qu'il s'agit d'un pouvoir qui est soutenu peut-être par les amis, par les Américains, qui semblent en fait être secoués, qu'on parle de nuisibles. Mais c'est présent nuisible, il y en a partout. Ces mêmes gens-là, nous connaissons une situation d'insécurité à l'Est qui est nuisible à notre propre gouvernement, qui est nuisible à notre stabilité, qui est nuisible. Alors, les gens viennent nous piéger parce qu'en responsabilisant trop la République démocratique du Congo, dont on sait qu'il est victime de cette instabilité, en fait, on nous pousse à faire quoi? Nous sommes instables, nous n'avons pas de moyens, on nous responsabilise pour qu'on nous condamne, qu'on nous accuse.
On va poser de questions des auditeurs. On va poser de questions des auditeurs et je vous demanderai d'être succinct parce que nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. La question, pourquoi les agresseurs s'infiltrent toujours dans des territoires jadis contrôlé par les ex-rebelles. C'est la question de Dimanche Capitula de Butembo, Nord Kivu. Je vous la pose directement.
Ouais, moi je vais dire. Regardez, si vous regardez, en fait, depuis qu'on parle de la réintégration, la réalisation de l'armée, et depuis qu'on parle de la réunification, en fait, la situation dans les anciens territoires contrôlés par les rébellions, ce sont des situations qui ne sont pas encore complètement, définitivement réglées. Parce que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan politique, ces gens sont venus vite à Kinshasa pour partager le pouvoir, mais ils n'ont en fait pas transféré les gestions des problèmes, des rapports qu'ils avaient avec les pays voisins au gouvernement central.
C'est ça qui explique justement cette infiltration.
Ils ont créé en fait un couloir. Le parti où il y avait RCD et MLC sont restés comme des couloirs de boulevard. Merci. Qui sont fréquentés par les pays étrangers.
Merci beaucoup, professeur. On pose cette question au vice-ministre. C'est la question de René Cambéi, Kassa Occidental. Le gouvernement congolais saura-t-il faire face à LRA alors qu'il a eu du mal à maîtriser deux bataillons de la 8e région militaire?
Écoutez, le gouvernement congolais a des problèmes, c'est évident. Nous sommes en train de reconstituer l'armée et c'est pourquoi il n'y a pas de honte à le dire. Quand nous voulons entreprendre des actions militaires, nous avons à recourir à l'appui des partenaires, à commencer par la MONUC, et ensuite à l'Union africaine qui nous a promis une chose, et nous cherchons même les moyens au-delà de l'Afrique, notamment auprès de l'Union européenne. Mais je voudrais d'abord que les Congolais, sincèrement, que les Congolais, qu'ils aiment leur pays, qu'ils soient conscients, qu'ils soient nationalistes. Ce n'est pas un problème du gouvernement. C'est le pays, c'est notre destin qui est en jeu. Ce n'est pas un problème de Kabila, ce n'est pas un problème de Mbouiga, ce n'est pas un problème, je ne sais pas. C'est le Congo. Alors, il ne faut pas se dire, moi, je regarde là, ah, ce gouvernement-là, on va voir. Mais quand le pays sombre, ce n'est pas le gouvernement seul qui
sombre. On vous pose une deuxième question.
Aujourd'hui, on a les problèmes que nous avons,
Monsieur le vice-ministre, je vous pose une deuxième question qui vient de Kalimi. Gaston Assani pose la question, alors, les FARDC sont-elles à mesure de repiquer à une éventuelle attaque militaire ougandaise?
Nous sommes, à moins qu'ils ne soient pas au courant de ce qui s'est fait, dans cette période de transition, l'un des programmes le plus important qui est en cours, c'est bien l'intégration de l'armée. C'est une formation de l'armée. Cette armée n'est pas aujourd'hui une armée consolidée. N'est-ce pas? Elle est en formation. Alors, c'est un processus, n'est-ce pas? Mais les rapports de force ne restent jamais figés. N'est-ce pas? Hier, le Congo de Mobutu, les Zaïre de Mobutu, sèmaient la terreur. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par de petits voisins. Demain, les rapports de force changeront.
Merci beaucoup.
On rétablira l'ordre.
Merci beaucoup, monsieur le vice-ministre. Présence en RDC de rebelles de LRA. C'était le thème principal de l'émission de ce soir qui a accueilli le vice-ministre des Affaires étrangères Robert Mbuinga et le professeur Philippe Bioya, professeur en relations internationales. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. On se retrouve demain. Au revoir.
Voilà, nous remercions donc Franklin Moliba-Cessé ainsi que toute l'équipe du magazine Dialogue entre Congolais. Dans quelques secondes,